20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. En cette période de crise liée au coronavirus, crise qui touche le monde musical, les institutions sont contraintes de s'adapter, d'annuler ou de maintenir, dans des conditions particulières, les concerts à venir. Le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui doit se tenir dès le 4 avril, étudie à ce jour toutes les possibilités afin de proposer des mesures concrètes au public. Daniel Ball, le directeur général du CIC, nous en dira quelques mots tout à l'heure. Nous recevrons également François-Xavier Roth, l'un des invités du Festival de Pâques, qui viendra y diriger tout un programme Stravinsky avec les siècles. Et puis Thierry Ilerito du Figaro nous dressera le portrait de l'un des jeunes artistes de cette édition, le pianiste Denis Kozoukin. Mais tout d'abord, un rapide point sur la situation depuis hier, sur les dernières décisions prises par certaines grandes salles de concert. Le Théâtre des Champs-Élysées a finalement choisi de maintenir ses représentations en limitant sa jauge à moins de 1000 spectateurs. C'est ainsi que les réservations au téléphone, aux caisses ou sur Internet sont stoppées, et cela jusqu'au 15 avril. D'autres salles ont décidé également de réduire leur nombre de spectateurs afin de ne pas annuler leurs représentations. C'est le cas du Théâtre du Châtelet, de la Salle Gaveau, des opéras de Rouen, Vichy, Marseille ou encore Nancy. Sachant que plusieurs opéras, dont les jauges sont inférieures à 1000 places, ne sont pas impactées par ces restrictions. C'est le cas notamment de l'Opéra Royal de Versailles qui continue sa programmation normalement. Les musicales franco-russes à Toulouse sont réduites malheureusement au minimum, sachant que quasiment tous les concerts prévus à la Halle au Grain ont dû être annulés. Vous trouverez plus d'informations, plus de détails sur le site de Radio Classique. Alors l'un des événements les plus attendus des mélomanes au printemps, au mois d'avril, c'est le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, dont l'édition, la 8e, se tiendra du 4 au 19 avril. Une édition, nous l'avons déjà évoquée sur l'antenne, qui s'annonce riche, intense, excitante. Une programmation conçue par Renaud Capuçon qui associe les plus grandes figures du classique à la nouvelle génération. Nous nous intéresserons ce soir à quelques-uns de ces moments forts, le temps d'échanger quelques mots avec Daniel Ball, le directeur général du CIC, partenaire fondateur du festival. Daniel Ball est passé nous voir à la radio aujourd'hui afin de nous éclairer sur la situation actuelle, sur l'organisation de cette manifestation depuis les annonces de restrictions du gouvernement liées à cette crise du coronavirus.
Nous sommes évidemment en contact étroit avec Dominique Bluzet notamment et Renaud Capuçon, puisque effectivement le sujet même de l'organisation du Festival de Pâques est aujourd'hui sur la table. Je sais que tout est mis en œuvre pour que le festival puisse avoir lieu, pour qu'il puisse avoir lieu en respectant les règles qui sont aujourd'hui celles édictées par les pouvoirs publics, et notamment la limitation de la jauge à 1000 personnes. J'espère vraiment très sincèrement que les mesures pourront être prises, que le festival pourra avoir lieu, que le public puisse se retrouver dans les magnifiques salles d'Aix-en-Provence. Mais plus largement, je crois que c'est important que ce festival puisse avoir lieu, que d'autres festivals puissent avoir lieu, parce que tout arrêter aujourd'hui peut avoir des conséquences. Ce serait vraiment dommage de mettre à mal des organisations, un festival comme le Festival de Pâques qui a été créé il y a 8 ans maintenant et qui est en vitesse de croisière. Ce serait dommage de mettre un coup d'arrêt à cette magnifique initiative. Et je pense également à tous les organisateurs de petites par la taille, manifestations culturelles par ailleurs, musicales ou autres. Je crois qu'il faut évidemment être très précautionneux, très prudent. Il y a des règles à respecter, qu'elles soient respectées. Mais tout ce qui pourra avoir lieu, de toute manière, en plus, ça permettra à la population de penser à autre chose. Car il faut quand même éviter que ce soit une psychose totale.
Alors le CIC est partenaire fondateur du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Le CIC est très engagé dans le domaine musical puisque vous soutenez également les Victoires de la Musique, la saison musicale des Invalides ou encore la Folle Journée de Nantes. Qu'est-ce qu'il représente ce Festival de Pâques d'Aix-en-Provence dans votre engagement de mécénat? C'est l'un des points d'orgue.
C'est absolument le point d'orgue. C'est l'engagement le plus important qu'on ait. On est partenaire fondateur. J'ai la faiblesse de croire que si nous n'avions pas répondu présent à l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est une vraie fierté que nous avons d'avoir accompagné. Finalement, on accompagne un festival, on accompagne un événement culturel, un événement musical, mais on accompagne également une entreprise. Et pour le CIC, Banque des Territoires, Banque des Entrepreneurs, c'est complètement en phase avec nos valeurs.
Vos valeurs qui sont celles de l'excellence, qui sont celles de la transmission. Le festival est également tourné vers l'avenir, vers l'innovation. Je pense à des applications comme NomadPlay que le CIC soutient. Tout cela s'inscrit dans la même démarche que celle d'une entreprise.
Oui, tout à fait. Et l'aspect entrepreneurial nous a beaucoup séduit dès l'origine. Et aujourd'hui encore, on voit toutes les initiatives qui sont prises par les organisateurs du Festival de Pâques, qui sont de sortir simplement du cadre. Il y a également une démarche citoyenne lorsque le festival sort des salles d'Aix pour aller à la rencontre de divers publics. Là aussi, on se sent tout à fait à l'aise en tant que banque pour accompagner l'ensemble des publics et leur faire connaître finalement la musique classique. Et le Festival de Pâques étant aujourd'hui une vraie référence dans la musique classique, faire cette démarche est très très intéressant et nous devons complètement la soutenir et nous la soutenons pleinement. Le CIC a une belle image, a quand même plutôt l'image d'une banque premium, et on est fiers de cette image. Malgré tout, on est également accessible à l'ensemble des publics et la musique, finalement, elle est accessible au public premium, à l'ensemble des publics. L'image de la musique classique va bien avec l'image du CIC, banque de l'entreprise, banque des entrepreneurs, banque des territoires, et cette combinaison, nous continuons à la cultiver.
Alors, on sait que le CIC est engagé vis-à-vis du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence jusqu'à 2022. Qu'en est-il du renouvellement? Est-ce que vous y pensez déjà? Est-ce que c'est un engagement à long terme?
Pour nous, de toute manière, c'est un engagement à long terme. Et je fais là aussi le parallèle avec ce que nous faisons en soutenant des entrepreneurs ou des entreprises ou les territoires. On s'engage sur le long terme parce que il nous semble que la seule démarche rationnelle, c'est un accompagnement de long terme. Donc l'accompagnement du Festival de Pâques est déjà aujourd'hui un accompagnement de long terme. Bon, évidemment, nous n'avons pas décidé, et c'est pas comme ça dans un studio de radio qu'on va prendre la décision, mais vous comprenez bien que nous n'avons pas l'intention de nous désengager. Au contraire, et plus que jamais, et dans cette situation difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous voulons être aux côtés des organisateurs du Festival de Pâques.
Voilà, donc rendez-vous dès le 4 avril et jusqu'au 19 à Aix-en-Provence pour la nouvelle édition du Festival de Pâques.
Nous l'espérons beaucoup.
Merci beaucoup Daniel Ball.
Merci à vous.
Renaud Capuçon et Martha Argerich, interprètes de Schumann, de la deuxième sonate pour violon et piano de Schumann. Renaud Capuçon et Martha Argerich qui se retrouveront le 11 avril au Grand Théâtre de Provence pour jouer cette sonate de Schumann, mais aussi Beethoven et César Franck, à l'occasion donc du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, dont la prochaine édition se tiendra, je vous le rappelle, du 4 au 19 avril. Un événement que nous vous ferons vivre sur l'antenne de Radio Classique. Alors parmi les invités de cette édition figure également le chef d'orchestre François-Xavier Roth, qui était déjà venu au festival il y a 2 ans avec l'Orchestre Symphonique de Londres et qui cette année y dirigera ses musiciens des siècles. Ce sera le 16 avril. François-Xavier Roth est justement un fidèle du Grand Théâtre de Provence, comme il me l'a rappelé lorsque je suis allée le rencontrer ces derniers jours.
Non seulement je connais le festival de Pâques, qui est un festival vraiment particulier, c'est un moment très très fort de la saison en France, de la saison de musique classique, mais je connais très bien la salle parce que j'étais un des premiers, avec mon orchestre Les Siècles, à avoir une saison dans le Grand Théâtre de Provence. Et donc, à la demande de Dominique Bluzès, il y a maintenant plein d'années, je ne sais pas, peut-être 10 ans, 7, 8 ans, enfin je ne sais plus. Mais c'est un très grand plaisir de venir à Aix, au festival. Renaud Capuçon a créé quelque chose d'absolument unique, avec une pléiade non seulement d'artistes, mais de programmes aussi, qui sont vraiment de tout premier plan. Et c'est un grand honneur de venir dans ce festival pour la première fois avec Les Siècles, et ma très grande amie Isabelle Faust.
Dans un programme 100% Stravinsky, un compositeur que vous fréquentez beaucoup, François-Xavier Roth, avec Les Siècles, vous avez été parmi les tout premiers à jouer la musique de Stravinsky sur instrument d'époque. Qu'est-ce que la musique de Stravinsky suscite en vous quand vous la dirigez ?
Ça, c'est difficile de dire, parce que déjà, quel Stravinsky ? De quel Stravinsky parle-t-on ? Est-ce que c'est le jeune compositeur des ballets russes ? Est-ce que c'est le compositeur qui s'est remis en question ? Il y a vraiment plusieurs compositeurs et plusieurs figures, mais je crois que c'est une personnalité musicale, peut-être la plus grande du XXe siècle, qui continue de me fasciner, comme tellement d'autres, parce que c'est lui qui a finalement inventé tant de choses. Il a inventé un nouveau vocable pour l'orchestre. Il a su donner des couleurs aux alliages de l'orchestre qu'on n'avait absolument pas pu imaginer avant lui. C'est un inventeur. C'est peut-être ça que j'aime chez lui. C'est à la fois cet inventeur et puis cet homme qui, tout au long de sa vie, je disais, il a vécu très longtemps, il a eu plusieurs périodes, eh bien, il s'est toujours remis en question. Et ça, j'aime beaucoup. Même si je n'aime pas toutes les œuvres de Stravinsky ou certaines périodes qui sont moins intéressantes pour moi que d'autres. Mais néanmoins, j'aime beaucoup regarder ce jeune compositeur révolutionnaire et puis ce vieil homme qui avait entendu une des premières exécutions du Marteau sans maître de Pierre Boulez et qui avait dit « Mais c'est ça, la musique, ça doit être ça. » Donc jusqu'à la fin de sa vie, il a été finalement un champion du risque à prendre pour les compositeurs de nous projeter dans un futur inconnu. Donc c'est ça que j'aime chez lui.
Alors vous mettrez justement en valeur plusieurs facettes de l'œuvre de Stravinsky à travers ses ballets, L'oiseau de feu et Le sacre du printemps, et à travers le concerto pour violon qui a été composé quelques années plus tard et qui appartient à une esthétique très différente.
Oui, alors le concerto pour violon, c'est une œuvre qu'on peut ranger dans la période néoclassique de Stravinsky. C'est vrai que c'est un concerto qui a, par plein de contours, une forme presque baroque. Et donc, c'est la première fois qu'on va le donner avec Isabelle Faust. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose de très excitant, parce que c'est une artiste, comme vous le savez, qui est non seulement une des plus grandes violonistes de notre époque, mais quelqu'un qui interroge aussi les œuvres du passé avec une telle acuité stylistique de jeu. Et vraiment, c'est un grand bonheur. D'ailleurs, je peux déjà annoncer aux auditeurs de Radio Classique que ce concerto de Stravinsky va donner l'objet d'un enregistrement pour Harmonia Mundi. Donc on est très heureux de faire ça avec Isabelle. Voilà, c'est une autre facette de la personnalité de Stravinsky, mais un concerto que j'aime énormément, qui a vraiment une personnalité, une vigueur, en même temps une mélancolie toute singulière.
le flamboyant final de L'Oiseau de feu de Stravinsky par François-Xavier Roth et son orchestre Les Siècles. Un petit aperçu de ce qui vous attend le 16 avril au Grand Théâtre de Provence, où François-Xavier Roth dirigera tout un concert Stravinsky avec Les Siècles et la violoniste Isabelle Faust, l'un des moments forts du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Mais avant de jouer Stravinsky à Aix, François-Xavier Roth et Les Siècles célèbrent Beethoven, puisqu'ils sillonnent en ce moment la France avec dans leur bagage l'intégrale des symphonies de Beethoven, une tournée qui aboutira à l'Opéra Royal de Versailles les 12, 13, 14 et 15 mars, donc de jeudi à dimanche, où ces musiciens redonneront cette intégrale en 4 concerts, des concerts bien maintenus comme l'a confirmé l'Opéra Royal. François-Xavier Roth nous parle justement de son engagement beethovenien en cette année anniversaire que célébrera également le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence.
Je pense que c'est très important, ça reste fondamental, et pour un orchestre, et pour le public, de pouvoir donner ce corpus dans son intégralité, et comme ça, jour après jour. C'est-à-dire que là, à Versailles, on va donner 4 concerts, ça va s'enchaîner. Bien sûr, il y a un côté peut-être de la performance que d'arriver à mener tous ces concerts, mais ce qui est beaucoup plus intéressant que la performance, c'est la perspective, c'est comment on peut regarder ce corpus d'œuvres qui reste aujourd'hui, bien sûr, une sorte de point d'ancrage, de patrimoine universel de la musique, de pouvoir, avec le public, voir comment ce compositeur, qui n'avait peut-être pas planifié d'en écrire 9, sait-on, 20 ou bien seulement 5, eh bien, a grandi avec ce genre, avec cette forme, et nous, finalement, à chaque symphonie, réinvente le monde. C'est ça qui m'intéresse avec ses œuvres, c'est que ce sont vraiment à chaque fois comme des univers ou des cosmos à part entière. Il réinvente, il ne veut pas se répéter jamais, et il nous projette vraiment dans ce que va devenir et ce qu'est la musique avec lui, ce que devient la musique avec lui, c'est-à-dire vraiment un art qui n'a pas besoin du théâtre, qui n'a pas besoin d'arguments pour interroger l'homme, pour nous interroger dans nos doutes, dans nos joies, et vraiment à partir des symphonies de Beethoven, mais comme je suis chef d'orchestre, je dirais les symphonies, eh bien la musique ne sera plus jamais comme elle a été avant.
La musique de Beethoven, ses symphonies, vous les jouez dans leur intégralité en ce moment, et notamment durant ces 4 jours à Versailles, mais vous avez mis sa musique en regard avec des compositeurs d'aujourd'hui, avec des compositeurs modernes, notamment avec votre orchestre du Gürzenich de Cologne. Vous la mettrez en regard avec d'autres compositeurs de différentes périodes, puisque vous continuerez cette exploration beethovenienne cette saison. Beethoven, il nous projette vers le futur, il regarde en même temps le passé. Il y a en même temps une forme d'intemporalité, on peut le dire, dans sa musique.
Oui, et alors ce que je trouve, moi, très touchant dans cette année de commémoration en 2020, c'est de voir à quel point on a besoin de lui, on a besoin de sa musique. Vous savez, alors, comme vous le disiez, je suis très actif en Allemagne, mais aussi un peu partout en Europe, où je dirige, et c'est un peu une folie, Beethoven, on doit dire, en ce moment. Et je me suis quand même posé la question, mais je crois que c'est pas un hasard si aujourd'hui, en 2020, on a tellement besoin de célébrer cette figure. Je crois, alors peut-être que c'est parce que je suis tellement européen de nature et de goût, mais je crois que c'est parce que à un moment donné où l'Europe finalement se fissure ou fait face à ces dangers de nationalisation, de recroquevillement sur nous-mêmes, eh bien les gens ont besoin de ce musicien qui est, pas seulement parce que l'hymne à la joie de la 9e symphonie a été choisi comme hymne européen, mais parce que c'est vraiment une figure centrale de notre culture commune. Et même du vivant de Beethoven, et ensuite quand au 19e siècle, on sait par exemple comment les Français ont adoré sa musique, s'en sont emparés tout de suite. Et je crois que c'est vraiment, c'est une des raisons, en tout cas que moi je vois, cette année, on a besoin de Beethoven parce que on a besoin, sans mots, sans programme politique, eh bien, de faire communauté, nous les Européens. Et un des plus grands Européens, que ce soit au niveau des idéaux humanistes, que ce soit à tout niveau, c'était vraiment Beethoven. On en a eu beaucoup en musique, on en a toujours des grands Européens, mais lui est peut-être un des plus importants, et je crois que c'est pour ça que les gens ont besoin cette année vraiment de célébrer cet immense artiste.
Quelques notes de Beethoven, le final du 8e Quatuor à cordes par le Quatuor Eben. Le Quatuor Eben qui jouera Beethoven le 6 avril au Théâtre du Jeu de Paume à l'occasion de la nouvelle édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Édition qui célébrera Beethoven avec également la Missa Solemnis par Jérémy Rohrer et son Cercle de l'Harmonie ou encore une intégrale de son œuvre pour violoncelle et piano, intégrale que se partageront quelques-unes des plus grandes figures du violoncelle français, Emmanuel Bertrand, Marc Copé, Ophélie Gaillard, Anne Gastinel, Jérôme Pernaud et Xavier Philips. Quant à François-Xavier Roth, il sera de jeudi à dimanche à l'Opéra Royal de Versailles avec les siècles pour donner l'intégrale des symphonies de Beethoven en 4 concerts avant de gagner en avril le Festival de Pâques pour diriger cette fois-ci la musique de Stravinsky.
Nouvelle génération de Thierry Lhériteau avec Le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, vous nous parlez d'un nouveau venu dans la famille du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, c'est le pianiste Denis Kozoukine.
Et oui, il faut dire que la manifestation est vraiment le festival des nouvelles générations. Pour preuve, et ce n'était vraiment pas un fait exprès, plusieurs des artistes dont nous avons brossé le portrait dans le cadre de cette chronique depuis septembre seront à l'affiche de cette édition 2020, comme la violoniste Diana Tichenko, souvenez-vous, qui avait remporté le Long Thibaud la saison dernière, ou encore le luthier Nicolas Bonnet, qui viendra en voisin à la manifestation, puisque son atelier est, comme celui de son père, installé à Aix-en-Provence. Une famille d'artistes, donc, et d'acteurs du monde musical que les fondateurs du festival, Dominique Bluzet et Renaud Capuçon, ont voulu aussi ouverte que possible, et où se côtoient aussi bien les très grands noms du classique que de tout jeunes talents et des artistes déjà confirmés, encore à l'orée d'une carrière prometteuse. C'est précisément le cas du pianiste russe Denis Kozoukine. À 33 ans, ce natif des bords de la Volga est loin d'être un inconnu dans le monde des producteurs ou des agents du classique. On l'a repéré dès 2006, où il remporta le 3e prix du concours international de Leeds. Derrière, tiens, un certain Sunwook Kim. La compétition est extrêmement suivie et fait facilement figure de tremplin pour ses lauréats. Je parie d'ailleurs que le nom du dernier en date, un certain Eric Lou, ne vous est pas totalement étranger. Mais c'est en 2010 que Kozoukin connaît vraiment la consécration. C'est avec le concours Reine Elisabeth dont il remporte le premier prix. Il n'a que 23 ans et la compétition lui ouvre définitivement les portes des grandes scènes européennes.
Des scènes où il n'est déjà plus un inconnu d'ailleurs.
En effet, il avait dès 2003, à l'âge de seulement 17 ans, remporté le prix d'honneur du Festival de Verbier, autre grand découvreur de talent. Et puis, c'est aussi un habitué du projet de Martha Argerich à Lugano. En fait, sa carrière européenne, elle a véritablement commencé 10 ans plus tôt, lorsqu'il arrive de sa Russie natale pour s'installer seul à Madrid, afin d'y étudier à l'école de musique de la reine Sofia, notamment auprès de l'un de ses compatriotes, immense pédagogue dont l'ombre plane sur de nombreuses carrières pianistiques ces dernières décennies, Arkady Vololos, Kirill Gerstein ou encore David Kadouch. Kozoukin, lui, n'a que 13 ans lorsqu'il arrive dans la classe de Dmitri Bashkirov, donc à Madrid. Mais c'est à ce moment précis, raconte-t-il, qu'il comprend que la musique sera son métier.
La musique qu'il a toujours environné.
En effet, né en 1986 à Nijni Novgorod, qui s'appelle alors Gorki, Denis Kozoukin arrive au monde déjà entouré de musiciens professionnels. Sa mère est pianiste, elle lui donnera ses premiers cours, tout comme à son petit frère, pianiste lui aussi, dès l'âge de 5 ans. Son père, lui, dirige un chœur dans lequel Denis chantera également dès l'âge de 5 ans et jusqu'à son départ pour Madrid. De là, sans doute, lui vient ce jeu tellement chantant qui semble toujours privilégier la sensibilité, la fluidité de la ligne à la puissance ou au romantisme exacerbé. À 8 ans, comme de nombreux enfants doués pour le piano dans cette partie de la Russie, eh bien Denis abandonne l'école traditionnelle pour intégrer un établissement spécialisé dans la musique. Son départ pour Madrid, 5 ans plus tard, sonnera vraiment pour lui comme une quête de liberté. Il y apprendra à accorder son amour pour la musique à toutes ses autres passions. Elles sont nombreuses, la littérature, la nature, les grands espaces, les voyages et même la cuisine, car en dépit des concerts et des engagements qui se sont multipliés depuis 10 ans, Kozoukin l'avoue, avec lui, tous les bons moments finissent dans une cuisine. Et bien pour l'heure, ce n'est pas dans les cuisines de quelques grands hôtels aixois qu'on le retrouvera le 16 avril prochain, mais bien au conservatoire Darius Milhaud. Il y interprétera Schubert, Ravel et surtout plusieurs des pièces lyriques de Grieg magistralement enregistrées sur son dernier album pour Pentatone, paru en juin dernier.
Notturno, l'une des plus belles des pièces lyriques d'Edvard Grieg sous les doigts de Denis Kozoukin. Denis Kozoukin qui jouera Grieg, entre autres, à l'occasion de son récital donné au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Ce sera le 16 avril au Conservatoire Darius Milhaud. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Denis Kozoukin et
à la semaine prochaine.
Quant à nous, demain, nous serons en compagnie d'un autre merveilleux jeune pianiste français, lui, Tanguy de Villancourt, qui viendra nous parler de ses bagatelles de Beethoven qu'il vient d'enregistrer. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.